Bonjour à ceux que j'ai pas encore vus ce matin. Peut le monter un peu? Oui, comment? On va y arriver, hein. Je suis un peu plus grand que... Ah. Voilà, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, hein. Alors, je vous dis que je suis un peu entre la joie et la tristesse ce matin. La tristesse de savoir que dans un mois, on ne sera plus parmi vous. Après 30 ans de ministère, on quitte la région. Ça va nous faire drôle avec ma femme. Après 5 ans parmi vous, je viens d'avoir un courrier la semaine dernière de la CAVIMAC comme quoi il confirme bien que je peux partir en pré-retraite à partir du 1er juillet. Ce n'était pas sûr à 100%. Là, je peux y aller. Yes. Et en même temps, dans la joie, parce que nous allons être plus proches de nos filles à 3 quarts d'heure, plus proches de la famille d'Annette, et on va aussi servir dans une église qui nous a demandé si vous voulez les rejoindre pour donner un coup de main à partir de septembre. Alors, c'est mon dernier message parmi vous ce matin, à part si Gilles ou Rave m'invitent l'une ou l'autre fois. Et je pense, tant que notre maison n'est pas vendue, on devra de temps en temps revenir pour voir où on est. Alors, vous risquez de nous voir quand même de temps en temps. J'aimerais ce matin, j'ai dit à Christophe que je risque d'être un peu long, c'est mon dernier message, je me prends un peu de liberté. Vous avez le temps. Il y a un texte dont j'aimerais vous parler ce matin qui est un de mes textes préférés du Nouveau Testament. Et il se trouve dans Éphésiens, hein. On a vu à deux reprises ces derniers temps Éphésiens avec vous. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens 3. Et le titre de mon message ce matin, Bouleversé par son amour. Bouleversé par son amour. Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Et je vous propose de lire je lirai dans la version Colombe. Éphésiens 3, les versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, à qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, je ne sais pas si un jour nous allons vraiment comprendre la grandeur de ton amour, l'œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix et que nous avons reconnue ce matin par la Sainte Cène, par la prière. Je pense un jour, oui, quand nous serons avec toi, Seigneur. Et merci parce qu'un jour, nous serons avec toi. Quelle espérance, quelle assurance. Le meilleur est devant nous, Seigneur. Mais merci pour cette parole, merci pour cette prière de l'apôtre Paul. Qu'on puisse s'y plonger ce matin ensemble et que tu en sois glorifié et honoré, Seigneur. Amen. Alors, c'est ici la deuxième prière que Paul prononce, hein. On avait une première prière dans le chapitre 1, les versets 18 à 23. On ne va pas y revenir. Et le titre de ma prière, plongé dans l'amour, bouleversé par son amour. Bouleversé par son amour. Et les chapitres 1 à 3, Paul a développé, on l'avait vu la dernière fois ou l'avant-dernière fois, Paul a développé tout ce que Christ a fait pour nous, tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Chapitre 4, 5, en lien avec tout ce que nous avons en Jésus-Christ, nous avons la force de marcher avec lui, chapitre 4, 5, chapitre 6 jusqu'au verset 9, et de tenir ferme, chapitre 6, 10, à 20, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, tenir ferme dans le combat spirituel. Nous avions vu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un combat spirituel, que nous veuillons ou non. Et cette prière, au chapitre 3, se trouve juste entre toute la côté doctrine, tout ce que Dieu a fait, Christ a fait pour nous, et la mise en pratique. C'est comme si Paul voulait nous dire, c'est bien, vous savez tout ce que vous avez en Christ, mais maintenant, mettez-le en pratique. Que cela ne reste pas dans votre tête. Et je dois parfois dire combien de choses je sais de Dieu. Mais entre le savoir et le vivre, il y a parfois un décalage. D'où la prière. Et d'où cette prière de Paul. Bouleversé par son amour. Il y a trois points que j'aimerais développer avec vous ce matin. Un Dieu incroyable, les versets 14-15. Des requêtes incroyables, les versets 16 à 19. Et une réponse incroyable, versets 20 à 21. Bouleversé par son amour. Et j'aimerais ce matin que tu sois bouleversé par l'amour de Christ pour toi. Par l'amour de Christ pour son Église. Premier point, un Dieu incroyable, un Dieu grandiose. Je vais relire les versets 14 et 15. C'est pourquoi, dit Paul, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Jusqu'à là. Paul se met à genoux, nous avons chanté un chant avant, hein, qu'on se met à genoux. Dans la culture juive de l'époque de Paul, les gens ne priaient pas à genoux, ils priaient debout. On se mettait rarement à genoux. Mais le fait que Paul se met à genoux, est-ce que ça ne montre pas l'importance de sa prière pour son Église? Ça montre son humilité, son abaissement. L'importance qu'il prend pour cette prière. Paul incline ses genoux et son cœur devant ce Dieu trois fois saint. Il s'humilie face à son Créateur. Paul s'incline devant la majesté de Dieu et nous montre combien cette prière lui tient à cœur. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire les Épîtres, ce n'est pas la première fois que Paul prie à genoux. Pendant les 3 ans où il a enseigné l'église d'Éphèse, hein, vous avez ça dans Actes 20, 19, on peut lire ce verset à un moment donné, dans Actes 20. « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves. » Pendant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir avec larmes chacun de vous. Puis il se mit à genoux pour prier avec tous. Avant de quitter Éphèse, il s'est mis à genoux avec les anciens et il a prié avec eux. Il a prié pour l'Église. Et Paul nous rappelle dans cette prière, hein, que Dieu est justement le créateur de l'univers. Il est au-dessus de toute chose. Toutes les familles dans les cieux trouvent leur origine en Dieu et en Christ. Les croyants comme les incroyants, les religieux comme les athées, tous ont leur origine en Dieu, notre Créateur, le Dieu de la Bible. Paul connaissait son Dieu. Nous avons trois témoignages dans le livre des Actes qui nous rapportent comment, sur la route du Damas, quand il est monté à Damas, il a rencontré celui qui est descendu vers lui. Paul connaissait son Dieu. Et c'est pour ça qu'il osait faire cette prière. Deuxième point, des requêtes incroyables, versets 16 à 19. C'est pourquoi je fléchis les genoux et je demande, première requête, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit. Quand est-ce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu? À quel moment? C'est une question que je vous pose. Que nous faisons partie de la famille de Dieu, à quel moment? Après la repentance.
Quand on a reconnu Jésus comme notre Seigneur.
Oui, et qu'est-ce qui arrive à ce moment? Alors? Vas-y, alors. Le Saint-Esprit qui entre en nous. Au moment de la conversion, repentance, le Saint-Esprit entre en nous. Nous n'avons pas besoin de faire une deuxième, troisième, quatrième expérience. Non. L'Esprit-Saint entre en nous au moment de la repentance, de la conversion sincère. Et l'Esprit-Saint nous donne cette certitude d'appartenir à Dieu, notre Père, et de faire partie de cette grande famille de Dieu. Paul parle de ça déjà dans le chapitre 1, verset 13, on peut lire. En lui, après avoir entendu la parole de vérité, mais il ne suffit pas de l'entendre. Il continue. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru entendre et croire et recevoir, et vous avez été scellés par l'Esprit Saint qui a été promis. Chapitre 1, 13. Sans l'Esprit Saint, la vie chrétienne est impossible de vivre. Ce n'est pas possible. Sans l'Esprit Saint, impossible de plaire à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux par tes propres forces. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, de ce fait la repentance, tu n'es pas enfant de Dieu. Ou pas encore. Seul l'Esprit Saint nous donne la force de vivre la vie chrétienne. C'est pour ça que Paul prie ici, que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par l'Esprit Saint. Que vous êtes rendus forts et puissants par son Esprit. Autre version. Juste un peu avant, Paul disait, quand on lit le verset 13 dans le chapitre 3, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Paul était en prison quand il a écrit cette lettre. Mais il encourageait les Éphésiens à ne pas perdre courage. Il nous encourage à ne pas perdre courage. Quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous sommes dans des situations contraires, quand le contexte dans lequel nous sommes nous donne l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il ne répond pas, ne vous découragez pas. Par la puissance de l'Esprit Saint, soyez renouvelés, fortifiés. Il le dit plusieurs fois dans cet épître, chapitre 4, verset 23, il nous dit « Soyez renouvelés, fortifiés par l'Esprit Saint dans votre intelligence. » Chapitre 5, « Soyez remplis de l'Esprit Saint. » Chapitre 4, « N'attristez pas l'Esprit Saint. » N'attristez pas l'Esprit Saint. Comment on peut attrister l'Esprit Saint? Allez-y. Nous pouvons attrister l'Esprit Saint en tant qu'enfant de Dieu. Comment? Vous n'allez pas avoir de notes à la fin, ne vous en faites pas. Hein. Vous pouvez y aller.
Quand on ne pardonne pas.
Quand on ne pardonne pas. Quand on ne pardonne pas, oui. Dans Éphésiens 4, Paul dit, je pardonne afin de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi sur moi. Tout à fait. Une des raisons. Quand j'ai désobéi à Dieu et que je ne confesse pas mon péché, qu'est-ce qui arrive? Je risque de m'éloigner. Parce que plus, à chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu va me dire, Freddy, demande pardon à ta femme, tu t'es fâché avec elle. Non, Seigneur, c'est sa faute. Si elle n'aurait pas fait ceci, cela, Freddy, et tant que je ne l'ai pas fait, cette voix-là ne me laisse pas en paix. Je vais. Mais c'est humiliant, hein? Mais c'est comme ça. L'Esprit Saint en nous. Et Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, on peut éteindre l'Esprit Saint. Ça veut dire, à un moment donné, si je ne confesse pas mon péché, l'Esprit Saint ne me le rappellera plus. Et à un moment donné, je risque de tomber dans mes travers à nouveau et de ne plus vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que David, à un moment donné, dans le psaume 51, il dit, « Seigneur, redonne-moi la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté me ranime. » C'était quand il avait péché, dans le contexte de Bathsheba. Il a demandé pardon. Il était attristé complètement. Et Dieu a répondu à sa prière. De ce fait, l'importance de l'Esprit Saint dans nos vies. Veillez, priez avec persévérance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Chapitre 6, verset 18 d'Éphésiens. Vous savez, je me suis posé la question, en 30 ans de ministère, combien de fois je fais des choses sans l'aide de l'Esprit Saint? On peut faire plein de choses, vous êtes d'accord? On est quand même intelligent, hein? J'ai fait 3 ans d'école biblique, hein, quand même, hein? Même si ça remonte, hein? J'ai de la force. On peut faire plein de choses. Mais qu'est-ce qui reste? C'est ce qui est fait avec l'aide de l'Esprit Saint. Pas par mes forces. Et parfois, je dois m'humilier. Parce qu'on le fait par ses propres forces. Et Dieu nous laisse parfois jusqu'à un épuisement. Et là, on revient à lui et on crie à lui de nouveau. 2 Corinthiens 3, 4, 5. C'est un verset que je vous encourage à retenir. Alois, tu veux le lire? C'est facile à retenir. 2, 3, 4, 5. 2 Corinthiens 3, 4, 5.
Soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Voilà, notre capacité nous vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 4, 5. Notre capacité nous vient de Dieu. Et Paul continue sa requête et dit que vous soyez fortifiés par l'Esprit de Dieu et que Christ habite dans votre cœur. Par la foi, verset 17a, ces deux requêtes sont liées. Mais là aussi la question, mais quand est-ce que Christ commence à habiter dans notre cœur? À quel moment? À quel moment? Allez-y. Au moment de la conversion, Christ vient habiter dans notre cœur. Tout à fait. Mais ici, Paul ne parle pas de ce moment. Paul parle et prie pour que réalise que Christ habite de plus en plus dans notre cœur, que Christ grandisse en nous. Il fait référence à ce fait que Christ doit se développer en nous. Et plus je prends du temps avec Dieu, dans mon intimité avec lui, plus Christ grandira en moi. Et c'est ça la prière de Paul. Que Christ règne entièrement dans notre vie et que nous puissions, par amour pour lui, tout lui soumettre, toute notre vie, pas seulement une partie de notre vie. Nous arrivons à la deuxième requête de Paul qui est dans les versets 17a à 19b. Je vais les relire. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Paul ne prie pas et ne dit pas que vous soyez enracinés et fondés dans la connaissance de Dieu. Le danger qui nous guette, c'est que la connaissance risque de nous rendre orgueilleux, mais l'amour nous aide et nous garde à la place qui est celle de Christ. Paul dit aux Corinthiens, la connaissance rend orgueilleuse, mais l'amour édifie. Paul n'oppose pas ici la connaissance avec l'amour, comprenez-moi bien, ou la doctrine avec l'amour de Christ. Mais il faut que la connaissance de Christ agisse dans notre vie. Il faut que la connaissance de Christ intervienne dans notre vie et qu'on le voit et que cette connaissance nous garde dans l'humilité et dans la dépendance de Christ. Donc, Corinthiens, il dit, même si j'avais toute la connaissance, toute la foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et cela ne sert à rien. Et ici, au verset 19, il dit, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Et c'est pour ça que Paul prie dans cette deuxième requête et il dit que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour de Dieu et dans l'amour de Christ. Enracinés et solidement fondés en Christ. Quand moi je pense à enraciner, j'ai devant moi un arbre qui a ses racines plongées dans la terre, au plus profond, jusqu'à atteindre la source qui est au fond. Un arbre qui est enraciné. Et plus il est enraciné, plus il tiendra face aux tempêtes, face aux orages, face à l'opposition. Et Paul prie justement pour que nous soyons enracinés. Enracinés. Enracinés en Christ. Enracinés dans la parole de Christ. Christ incarné. Et plus nous serons enracinés, plus nous tiendrons dans ce monde où les courants sont contraires à tout ce que la parole de Dieu nous demande de vivre. Enraciné et fondé dans l'amour. Paul dit pas seulement enraciné, mais aussi fondé. Fondé. Fondé sur un fondement solide. Comme une maison qui est fondée sur un fondement en béton. Pas sur un fondement de sable. Hein. Rappelez-vous la parabole de Jésus. Hein. Dominique Anchet, dans son livre, dans son commentaire, je lirai un petit passage après, à la fin, il dit, ces deux métaphores enracinées et fondées expriment la notion de progrès dans cet amour. L'amour de Christ constitue à la fois la terre dans laquelle les croyants sont enracinés et le fondement sur lequel ils bâtissent leur vie. Ma vie est-elle enracinée et fondée dans l'amour de Dieu? Et Paul termine cette deuxième requête en disant pour être capable de comprendre avec tous les saints. Ça montre que cette prière n'est pas une prière individuelle, mais c'est une prière communautaire. Il s'adresse à l'Église, il ne s'adresse pas à un individu. Et John Stott, dans son commentaire sur Éphésiens, il dit « Un chrétien isolé peut certes comprendre, saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il comprendra restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre l'amour de Dieu, il nous faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. » C'est notre Église locale qui nous permet de renouveler fréquemment notre expérience de l'amour de Christ. La communauté est la toile de fond sur laquelle se dessine son amour dans notre vie. En un mot, l'amour de Christ se vit au rythme de nos relations les uns avec les autres. L'importance de l'Église pour grandir dans cet amour. Et Paul de continuer, afin de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. L'amour de Christ est incommensurable. Incroyable, infini. À la croix de Golgotha, Dieu révèle son amour pour nous à travers l'amour de Christ. Jean nous rappelle dans son épître, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La croix de Christ révèle son amour. Le bois horizontal dévoile la longueur et la largeur de l'amour de Christ. Un amour qui concerne tous les êtres humains sur toute la surface de la terre, de toute tribu, de toute nation, de toute culture, de toute race, de toute religion. Un amour qui n'a pas de limite. Et le bois vertical de cette croix dévoile la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. La profondeur parce que Christ a allé jusqu'en enfer. Il a vécu l'enfer à la croix pour nous. La séparation d'avec Dieu, c'est l'enfer. À aucun moment, Christ était séparé de sa communion avec Dieu. Un seul moment. C'est quand il a pris mon péché sur lui. Dieu s'est détourné de lui. Christ a connu l'enfer. Par amour pour moi. Par amour pour son Église. Cet amour qui va jusqu'au ciel, profondeur et hauteur. Et un jour, nous serons aussi avec lui dans les cieux. Nous venons de fêter l'ascension. Christ est monté au ciel. Il a vaincu l'amour, la puissance de l'amour. Il a vaincu Satan à la croix. Il est monté au ciel et il reviendra un jour. Et la victoire sera finale. Tsophar. Vous connaissez Tsophar? C'est qui Tsophar dans la Bible? Oui, si on peut dire. C'est un copain de Job. Ami, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont quand même visité. Et pendant une semaine, ils n'ont rien dit. Moi, je dis chapeau. Hein. Ils auraient dû continuer à rien dire. Mais c'est difficile de rien dire. Hein. Vous êtes d'accord? Je sais quelque chose. Hein. Il dit à un moment donné, Tsophar, dans Job 11, « Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ?» Découvrir les profondeurs de son amour. Ou découvrir ce que touche à la profondeur de Dieu. Du Tout-Puissant, il est aussi, elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure est plus large que la terre, il est plus long que la mer. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu pour nous. Job 11, versets 7 à 9. L'amour de Christ est un amour incommensurable. Et je crois qu'un jour nous le saisirons, quand nous serons avec lui. Et on sera peut-être humilié, parce qu'on n'a pas pu aimer comme lui a aimé. En tout cas, moi. L'amour de Christ nous descend, nous dépasse, à l'exemple de l'immensité, de la grandeur, de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que Paul prie pour que nous puissions toujours mieux connaître l'amour de Christ pour nous. Que nous puissions grandir toujours plus dans cet amour, dans cette relation avec Dieu, qui est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation de devoir. Tu dois faire, sinon je suis là à te taper avec un bâton. C'est la vision que j'avais de Dieu avant de me convertir. C'est un Dieu d'amour qui nous aime. Un Dieu d'amour qui t'aime. Mais Dieu veut aussi qu'on vive cet amour entre nous, dans l'Église. Et qu'on témoigne de cet amour autour de nous. Chapitre 5, versets 1 et 2. C'est le verset de mariage que notre fille Céline a choisi pour son mariage en août. Ma femme fait comme ça, elle dit, t'aurais pas dû dire ça. Pas grave, je lui ai dit à Céline. Tu le connais, chérie, son verset de mariage? Ah, si, il est sur le faire-part. Ah. Mais c'est vrai, elle a oublié de mettre la référence. Alors, voilà. Chapitre 5, verset 1. « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Soyez les imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Fastoche, hein? À 8 reprises, Paul prie dans la lettre aux Éphésiens pour que les Éphésiens puissent grandir dans cet amour et marcher dans l'amour de Christ. Et c'est ce que Gilles nous a rappelé hier quand il nous a envoyé le mail sur la charte qu'il a ouverte. Ouf, Gilles, il y en a quand même deux qui l'ont ouvert. 3, 4, ouf, moi je l'ai ouvert aussi. Mais les autres, vous pouvez toujours l'ouvrir encore. Hein. Ça va peut-être vous motiver à l'ouvrir cet après-midi ou demain. Il y a combien de points développés, Rebecca, dans cette charte?
4.
Hein? 4. Combien de versets? Les uns les autres?
28.
Bravo. 7 fois 4. 28. 28 versets. Tu veux savoir ce que ça veut dire marcher dans l'amour de Christ? Ouvre le mail de Gilles et prie surtout. Merci pour le rappel, Gilles. Les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. C'est ça la vie communautaire. Mais dans un esprit d'amour. Dans un esprit d'amour. Pas dans un esprit de critique, pas dans un esprit de jugement, pas dans un esprit de comparaison. Dans un esprit d'amour. Nous arrivons à la troisième requête. Verset 19b. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 19b. Qu'est-ce que c'est la plénitude de Dieu? Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? La plénitude de Dieu, c'est sa perfection. C'est sa présence, sa vie, sa puissance parfaite. Paul prie afin que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu, que nous soyons de plus en plus sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Être de plus en plus soumis à Dieu dans notre marche avec lui. Un jour, plus rien nous séparera de la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Le meilleur est devant nous. Un jour, plus de lutte, plus de combat, plus de pleurs, plus de larmes, plus de péchés. Un jour, en présence de Dieu pour l'éternité. Plénitude parfaite. Mais cette troisième requête est en lien avec les deux premières requêtes que nous venons de voir. Et je crois plus nous ferons l'expérience de la force du Saint-Esprit en nous, plus nous goûterons à l'amour sans limite de Christ pour nous, et plus nous avancerons en maturité à la ressemblance de Christ. Et dans cette connaissance de Dieu, toujours plus intime, Dieu, notre raison de vivre. Larry Grabe, il est dans la plénitude du Seigneur, il n'est plus de ce monde. Dans son livre, Un bonheur bien différent, a écrit ceci. Pensez-y, la réalité finale de l'univers n'est pas un énoncé de doctrine que les chrétiens professent. C'est un amour merveilleux révélé dans une communauté divine au sein de laquelle nous sommes tous invités. La saine doctrine importe, bien évidemment, et cela pour des milliers de raisons. Mais aucune n'importe plus que celle qui révèle l'amour meilleur qui caractérise Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans cette prière, nous avons cette présence de la Trinité. Troisième et dernier point, ça va encore? Vous êtes encore là? après avoir vu un Dieu incroyable, des requêtes incroyables, une réponse incroyable de la part de Dieu. Paul ne fait pas seulement des demandes, des requêtes incroyables à Dieu son Père, mais il a confiance que Dieu va répondre. Que ce Dieu incroyable répondra. Verset 20. Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Paul termine cette prière en rendant gloire à son Dieu et à Jésus-Christ. À celui qui peut faire infiniment ou à celui qui a déjà fait infiniment, énormément pour nous, pour vous. Rappelez-vous, cette prière vient à la fin des trois chapitres où Paul justement avait dévoilé tout ce que nous avons en Christ. Nous sommes passés en tant qu'enfants de Dieu des ténèbres à la lumière en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix du cœur. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, de tous les rachetés de tous les temps. Nous sommes, à cause de Christ, déjà maintenant par la foi, assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. C'est tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Parfois, on l'oublie. On doit s'arrêter et réaliser tout ce que nous avons déjà en Christ. Et Paul, à cause de cela, Paul prie, Christ peut et veut réaliser au-delà de tout ce qu'il nous a déjà donné. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser humainement. Est-ce que nous le croyons que Christ peut faire au-delà? Avons-nous assez de foi? Et c'est pourquoi nos prières sont-elles souvent tellement terre à terre? Alors toutes ces choses, on peut les demander à Dieu. Mais Paul, ici, demande beaucoup plus. Dominique Granger dit dans son commentaire, nous nous trouvons devant l'un des versets les plus vivants, les plus motivants de toute la Bible à propos de la prière. Dieu n'est pas limité, par nos faiblesses et par nos faibles demandes. Il a envie non seulement d'honorer nos requêtes, mais encore de les rehausser d'un cran et de nous accorder bien davantage. Le croyons-nous? Et Paul termine la prière et rend gloire à Dieu, verset 21. À Dieu la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est comme si Paul nous rappelle que tout ce que nous demandons dans la prière, pour que son nom soit glorifié et élevé, pas mon nom, son nom. Si notre prière est centrée sur lui, non pas ma volonté, mais la tienne, Dieu répondra à nos prières et Dieu les exaucera en son temps. Nous pouvons en être sûrs. Et si notre prière est centrée sur Christ, Dieu continuera son œuvre dans nos vies et nous transformera de plus en plus à son image par la puissance de l'Esprit-Saint en nous et nous donnera la force de nous aimer les uns les autres. Je conclue. J'ai encore 5 minutes, ça va, Christophe? Ces quelques versets nous ont permis de nous plonger dans la grandeur, la profondeur la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour son Église, pour nous, pour toi, pour moi. Mais la requête de Paul n'est pas seulement que nous puissions découvrir l'immensité de cet amour par Christ, mais que nous puissions le vivre entre nous. De ce fait, cette prière entre la doctrine des trois premiers chapitres et la mise en pratique après. Le but de Christ, c'est que nous puissions le vivre entre nous. Et à chaque fois que je ne le vis pas, je peux demander pardon et repartir. Et c'est ça la grâce. Je termine par une histoire de Corrie ten Boom. Qui a déjà lu des livres de Corrie ten Boom? Plusieurs d'entre vous, hein? C'était quelqu'un qui a connu les camps de concentration. Hein. Elle a vécu pendant 4 mois dans un camp de concentration. Elle a une sœur qui est décédée dans ce camp de concentration. Elle y était en septembre 44 jusqu'en décembre 44. Et elle dit ça à un moment donné. En 1947, alors que Corrie se trouve dans une église à Munich, c'était 3 ans après être sortie hein, du camp de concentration, elle se trouve dans une église à Munich pour parler du pardon de Dieu. Elle perçoit celui qui avait été quelques années auparavant l'un des surveillants les plus cruels de Ravensbrück. C'était là où il y avait le camp de concentration. Après la conférence, il vient vers elle pour lui serrer la main. De toute évidence, il ne la reconnaît pas. Entre-temps, il est devenu chrétien. Il lui demande, en tant qu'ex-prisonnière, de lui pardonner toutes les cruautés qu'il a commises au camp. Sur le coup, Corinne en est incapable. Elle est bloquée, figée. Elle raconte la suite. Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. Bien sûr, je peux lever la main, car j'en suis bien encore incapable. Mais c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que, d'un geste raide et mécanique, je posais une main de bois dans celle qui m'était tendue. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être et mes yeux s'emplirent de larmes. Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. Nos mains restèrent longtemps serrées, celles de l'ancien surveillant dans celles de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même instant, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'ai essayé à chaque fois, je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit en moi.